Bonsoir tout le monde, merci d'être à l'écoute de RCN, merci de nous écouter sur le 90.7, mais également sur le net, tous les deuxièmes lundis à 17h. Charles Ancé, bonsoir à toi.
Bonsoir.
Tu vas bien?
Ça va, ça va.
Nous avons un invité, bien entendu, dans cette émission, monsieur Jean Castelli. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Ça va bien.
Vous n'avez pas emmené vos 5 ouvrages sous le bras, parce que
ça ferait passer des heures d'émission.
Oui. Mais on va s'arrêter aujourd'hui sur la polémique en Lorraine.
Oui.
Alors, au 19e siècle.
Au 19e siècle.
Oui.
Et pourquoi j'ai demandé à M. Castelli de venir? Parce que je me suis aperçu qu'on ne parle jamais du 19e siècle. C'est vrai que c'est toujours oublié. Enfin, c'est un peu un enfant pauvre de l'histoire. C'est-à-dire qu'on parle de. On a parlé souvent de l'époque napoléonienne, des sièges, des guerres. Après, bon, on reprend, si tu veux, dans l'essor de Nancy après 1870. Mais il y a tout cet entre-deux-là. La restauration, la monarchie de juillet, tout ça, on n'a jamais trop bien traité ça, si ce n'est que quand on parle de l'implantation du canal et des différends entre Metz et Nancy à propos du chemin de fer. Voilà.
Mais voilà, il faut l'interlocuteur et le bon M. Jean Castelli.
Qui a fait un travail extraordinaire parce qu'il a passé je ne sais pas combien d'heures dans les archives pour relever, si tu veux, les anecdotes et les polémiques qu'il y avait au siècle dernier à travers les journaux d'opinion. Alors justement, ces journaux, M. Castelli, c'était quoi? Il n'y avait pas mal?
Il y en avait à peu près 25 en Lorraine, de journaux d'opinion. Hein. Je ne parle pas des journaux de faits divers. Comme on le voit aujourd'hui, l'Est républicain, bon, c'est un quotidien. À l'époque, non, les journaux avaient tous une orientation politique.
Alors à l'époque, il y avait quoi? Il y avait des bonapartistes, des républicains?
Alors il y avait les bonapartistes, il y avait les républicains qui commençaient à prendre une certaine place. Il y avait les monarchistes, évidemment. Et puis alors, tout ça se partageait en deux grandes catégories, les cléricaux et les anticléricaux.
Ouais. Et il y a même des feuilles anarchistes, j'ai vu.
Il y a eu des feuilles anarchistes, mais... qui n'ont pas duré longtemps, qui ont émergé pendant un an ou deux, trois ans. Ils étaient tellement combattus qu'ils ne pouvaient pas. De toute façon, il fallait qu'ils disparaissent pour la sécurité de leurs rédacteurs. Ce n'était pas comme à Paris où il y avait vraiment beaucoup de journaux anarchistes. Mais Paris, c'est autre chose.
Ouais. Ouais. Mais alors, les polémiques qu'il y avait, elles étaient suivies par les gens, parce qu'ils se répondaient.
Il faut savoir qu'en Lorraine, dès le XVIIIe siècle, 75% des Lorrains savaient lire, écrire, compter évidemment, peut-être même plus encore compter qu'écrire. Alors, donc, il y avait un potentiel de lecteurs possible.
Oui. Ça, c'est vrai,
c'était
la province.
C'était pas comme dans beaucoup d'autres provinces où on en est resté au patois.
Mais c'est vrai que la province était éduquée, on le sait, parce que justement dans les guerres de l'Empire, il y a beaucoup d'officiers et de sous-officiers lorrains parce qu'ils savaient lire et écrire.
Exactement. C'est ça, exactement, oui. Alors pour les journaux, évidemment, c'était une clientèle. Alors la clientèle se partageait entre ce qu'on appelle maintenant les conservateurs et les progressistes.
Puis il y a plusieurs clans là-dedans.
C'est
les débuts du socialisme. Il y a même des feuilles communistes.
Ben, c'est-à-dire que c'est le siècle de Marx. Hein.
Voilà.
c'est-à-dire que la laïcité a commencé à s'implanter un peu avant la guerre de 70. Il existait des tempéraments laïques comme Voltaire, comme Rousseau, enfin tous les gens de l'encyclopédie. Mais c'était restreint à une classe, à une sorte d'élite. Mmh. Après les guerres napoléoniennes, et principalement lors de la monarchie de juillet, une certaine laïcité a commencé à faire jour et s'est développée assez rapidement. Avec des gens comme Jules Ferry en Lorraine, par exemple, qui a d'ailleurs dit « Je veux faire une humanité sans Dieu ni roi. » À laquelle Jean Jaurès a répondu « Mais non, sans patron. » Alors cette laïcité-là était déjà nécessaire pour que la République s'instaure. Ouais. Autrement, ce n'était pas possible.
Oui, et puis, en plus, quand on voit des ouvrages, même dans les romans du 19e, tout ça, on se rend bien compte que le curé faisait la loi dans le village.
Ah, mais...
Et fallait presque aller demander son autorisation pour se marier au curé.
Le curé faisait la loi dans le village, mais non seulement ça, mais celui qui recrutait l'instituteur, enfin le régent d'école, comme on disait à l'époque, qui recrutait l'instituteur et qui lui donnait son programme.
Oui, oui. Et j'ai vu dans votre ouvrage, là, il y a dans des villages où le curé est de droit au conseil municipal.
Pas de droit au conseil municipal, mais de droit dans tout ce qui est réalisation, tout ce qui est comité de bienfaisance, d'éducation, etc. Ouais. C'était l'époque où... Les sentinelles devant les casernes présentaient les armes à l'évêque.
Ah oui, ça j'ai vu.
c'était comme ça. Alors, dans les campagnes où les esprits n'avaient pas tellement évolué jusqu'à 1871, bon, ben, le curé gardait son importance et son aura. C'était pas de mauvais gens. Mais ils étaient conformés.
Oui, c'était un système plutôt.
Ils étaient dans un système et ils n'avaient pas envie d'en sortir. Et puis, d'ailleurs, ils ne pouvaient pas en sortir.
Et les journaux, ils étaient, enfin, dans les campagnes, étaient lus ou c'est
quand alors, les journaux étaient lus dans les campagnes. C'était souvent dans un village, on avait 3-4 propriétaires terriens ou nobles, le curé également. Qui était abonné à un journal et qui le prêtait à droite à gauche. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait un gros impact dans les campagnes des journaux d'opinion.
D'accord, oui.
Mais il y a quand même une mainmise,
des journaux d'information, des nouvelles, des annonces, des choses comme ça.
Oui, alors c'était surtout les mercuriales, le prix du blé, le prix des grains. Enfin, c'était ça qui intéressait les gens de la campagne.
Et ces journaux-là, ils ont une vie jusqu'à quelle époque, à peu près ?
Ben, écoutez, le plus ancien, je crois que c'était le Journal de la Meurthe, qui a dû être créé fin 18e siècle.
Ah oui.
Et puis, un autre qui a duré assez longtemps aussi, c'est l'Espérance, un journal...
Ah oui, alors il y a deux vedettes dans les journaux-là, l'Espérance et l'Espérance, le Patriote.
Alors, ce sont les deux antagonistes, L'Espérance est le journal de sacristie. D'ailleurs, oui. Alors, le Patriote, en parlant de l'Espérance, dit le journal de sacristie. Et puis, bon, il y a donc le Patriote qui est le journal rouge. Si vous voulez, d'un côté, l'Espérance, le journal des bien-pensants, et le Patriote, le journal rouge, des rouges.
Alors, ce qui est intéressant dans votre bouquin, c'est justement, il y a des faits divers qui sont traités par les deux journaux.
Oui,
alors, vraiment.
Oui. Alors, c'est clair. Chaque journal a évidemment son opinion. Et ils sont très, très rarement d'accord, sauf sur une chose. Lorsque Thiers a décidé d'entourer Paris de fortifications. Ouais. Alors là, que ce soit le Patriote ou l'Espérance, on conclut tous les deux que c'était vraiment de l'argent fichu en l'air.
Oui, absolument.
Alors, je vais lire un passage là qui est pas mal. C'est le Patriote, 21 juillet 1841. Nous avons eu souvent à constater les efforts et l'empressement de l'autorité municipale de la police pour réprimer les abus ou adopter des améliorations qui lui étaient indiquées. Nous lui signalons aujourd'hui des faits déplorablement scandaleux qui, depuis quelques jours, se succèdent sans interruption. Il existe malheureusement dans divers quartiers de Nancy, et notamment en son centre, rue du Mort qui trompe, d'ignobles maisons de tolérance dont les prostituées sont le scandale permanent du quartier. Il semblerait que leur vil métier ne doit s'exercer que dans les ténèbres. Eh bien non, c'est en plein jour, de 8h du matin à 8h du soir, que ces sales créatures, à peine vêtues, parcourent les rues en charrette, en fiacre et à pied, en hurlant, vociférant, préférant des propos les plus repoussants, en compagnie de vendus. Alors, les vendus...
Les vendus, c'était les gens qui faisaient profession de remplacer les jeunes gens qui avaient tiré un mauvais numéro et qui étaient donc obligés de faire leur service militaire. Ouais. Leurs parents, étant aisés, avaient toute possibilité de leur acheter un remplaçant qu'on appelait le vendu.
Voilà. Okay. Alors, voilà le spectacle que nos épouses, nos enfants et nous avons constamment sous les yeux. Signaler ces faits publics, c'est appeler sur eux une prompte et énergique répression. Cette fois encore, l'administration nous entendra. Alors ça, c'est le journal Le Patriote. Oui. Alors ce qu'ils ont dû dire, l'Espérance, ça devait être autre chose.
C'était... Ben, l'Espérance, c'était... L'Espérance était partie en guerre aussi contre les prostituées.
Non.
Oui, parce qu'à l'époque, ça, c'était un métier qui n'était pas bien vu. Hein.
Non, ça continue d'ailleurs.
Ça continue, oui, bien
avec
sûr.
Avec une tolérance.
Mais c'est plus toléré, disons.
Bien sûr.
On en a de la nécessité. De,
oui, on
de
en
nos
a,
jours.
Oui, enfin, en pointillé quand même. Hein, oui, oui, le, oui. Sont les personnes. Hein, oui. Je crois que 19e siècle, 21e siècle, n'est pas très
ah,
éloigné.
Le 19e siècle, si vous voulez, c'était une aberration.
Et pourquoi vous êtes attaché spécialement au 19e siècle
Je me suis attaché spécialement au 19e siècle parce que pour moi, le 19e siècle est un siècle très très important. Je vais même jusqu'à dire que c'est dans le siècle le plus important de l'histoire de France. Parce que, et peut-être aussi de l'humanité, hein, mais enfin surtout l'histoire de France. Parce que on est passé, la grande innovation du 19e siècle, c'est qu'on est passé d'une économie agricole à une économie industrielle.
Oui.
Alors, ce qui a entraîné beaucoup de choses. Autant le clergé avait la mainmise sur la ruralité, autant dans les villes, ce n'était pas le cas. Et puis alors, Napoléon III avait innové en autorisant les rassemblements ouvriers.
Ah, ça voilà.
Les rassemblements ouvriers, bon, puis c'est le siècle de Marx.
Absolument.
C'est le siècle où il y a eu énormément d'effervescence ouvrière. Pas toujours bien aperçue, et souvent brimée d'ailleurs.
Absolument.
Alors... pour moi, voilà.
La période charnière.
C'est la période
très,
charnière.
Très, très, très importante.
Oui. Donc, on quitte une époque, on passe à une autre. Mais c'est vrai que là, bon, dans ces journaux-là, il y a une certaine violence entre le. Bon, justement, je vois les articles du Patriote et de l'Espérance, mais ça finissait pas par des duels ou il y avait pas
de... Non. C'était des gens qui étaient rangés quand même. Ouais. Le duel du 19e siècle, ça a été le duel entre Maurice Barrès. Est le fondateur de l'Est républicain.
Ah bon ?
Oui, au sujet de l'affaire Dreyfus.
Ah, oula.
Voilà. Ouais, okay. Alors, ils se sont battus en duel. Il était prévu par le règlement qu'ils avaient mis sur place que le premier... Il combattrait jusqu'à la première blessure. Alors, c'est Maurice Barrès qui a blessé le gérant de l'Est républicain, je crois. Je n'ai plus ça dans la tête, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ça a été il y a eu d'autres duels, mais dont on n'a pas entendu parler, qui n'ont pas eu d'écho, ni dans la presse, ni
celui-là a été médiatisé.
Parce qu'il y avait certainement des militaires. Hein, et les militaires se battaient facilement en duel.
Oui, oui.
Mais entre militaires.
Mais c'est reporté aussi quelquefois. Il y a des rixes avec des militaires, des bagarres. Il y a des bagarres assez violentes, même quelquefois. Et puis la police intervient. Enfin, il y a des... Même on n'hésitait pas à tirer. Enfin bon, peut-être en revenir après, mais ça paraît être une époque extrêmement violente.
C'est une époque violente. Bon...
Si, déjà, par exemple, dans les peines qui sont appliquées par les tribunaux.
Oui, la justice est rigoureuse. Hein, quand on pense qu'un pauvre maraîcher qui vient proposer ses légumes à une primeur de la rue Sainte-Catherine, ils ne sont pas d'accord, le ton monte, les voisins craignent qu'il s'écharpe, appellent la police arrête le maraîcher, il est mis en prison... Il est jugé, il est condamné à mort et on l'exécute.
Ouais.
C'était l'époque. Vous avez relevé notamment l'histoire des gens qui volent deux comparses, qui volent trois jambons.
Ah, oui, parce que ça s'est passé dans notre quartier, c'est trois jambons, trois maisons.
Ils essayent d'en vendre deux. Ils en vendent deux, d'ailleurs.
Mais ce n'était pas malin.
Ils mangent le troisième. Non,
ils ont dit qu'ils avaient... Que c'était un jeune homme qui, de passage, qui leur avait donné...
Enfin, l'histoire qui n'était
pas de lui.
Ils sont dénoncés, ils sont arrêtés, jugés, condamnés. et condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Ouais, et puis quand on sait ce que le bagne était à l'époque-là, c'était
quelque chose. Hein.
Tu n'en revenais, tu en venais pas. Hein.
Non, vous savez, comment Victor Hugo, dans Pour les Misérables,
exact.
Il avait le choix.
Tout à fait. Ah oui, il pouvait piocher, il avait le choix. Mais que faisait l'Église? Parce que des condamnations comme ça, enfin, on parle beaucoup de justice dans l'Église.
L'Église était dans le système.
Elle donnait l'absolution aux condamnés à mort avant qu'ils ne soient exécutés.
Non, mais ça vous donne une idée un peu de la religion quand même. Quoi.
Oui, non, mais c'était l'époque. Oui, mais... Vous voyez, le problème de l'historien, je me joue...
Oui, c'est ça, on ne peut pas faire d'anachronisme. À l'époque-là, si tu veux, c'est difficile de... Parce que c'était une institution... Et si tu veux, l'Église avait un rôle à jouer, et ceux qui avaient un rôle progressiste avançaient pas à pas. Mais si tu veux, dans l'histoire des condamnations et dans l'extrême sévérité de la justice, si tu veux, il y a beaucoup adhéré à ce principe.
Oui, oui. Le problème de l'historien, ou tout du moins comme moi, des petits gratte-papiers, c'est justement de se mettre dans l'ambiance de l'époque, vous voyez. Qui était totalement différente de maintenant. Maintenant, nous
revenons,
il y aurait eu des défilés dans les rues, il y aurait eu, je sais pas, moi, ça aurait été sanglant.
Non, mais c'est, je veux dire, l'écriture, la lecture de la Bible, elle, à cette époque-là, maintenant, elle n'a pas changé, donc c'est misérable, quoi.
Oui, mais à l'époque, il ne fallait pas sortir...
Oui, non, mais j'ai bien compris, de cette droiture, tout à fait. J'ai bien compris.
C'est extrêmement difficile, si tu veux, pour remettre, parce que tout le système, si tu veux, ne peut pas être mis en cause comme ça. Et quand tu vois le poids que l'Église pouvait avoir, en fait, il régentait tout, si tu veux, l'éducation, les hôpitaux,
bien,
tout passait par...
Donc, Castille en a parlé tout à l'heure.
Bah oui. Alors, comment faire? Tu vois, c'est simplement si quand il y avait des abus flagrants, où là, bon, bah, il y avait une poussée, une révolte, des répressions sévères, mais les lignes bougeaient un tout petit peu, et même quelquefois reculaient. Enfin, c'était le problème de la Restauration. Ouais, justement, ça m'amène, si tu veux, à parler des épisodes sanglants qu'il y a eu en Lorraine pour la Révolution de 1848, qui a démarré sur des faits anodins.
Oui.
Dans le Touloua.
Alors, dans le Touloua, la grosse histoire, c'est, disons qu'à l'origine de la révolution du Touloua, c'est une taxe sur tout ce qui était vin et apparenté, notamment les vinaigres, puisque le vinaigre, avec le vin, on fait du vinaigre. Et donc, un vinaigrier de Touloua, qui reçoit sa feuille d'impôt, probablement, s'insurge et... met en place une croisade contre les impôts. Alors, au départ, c'est une simple manifestation avec un défilé qui se passe à Colombey-les-Belles. Et puis, ça s'envenime. Et alors là, on se bat.
Okay.
On se bat et la troupe intervient. C'est un peu les débuts de la Révolution de 1848.
Ça a commencé à craquer un peu.
Ouais. Ouais, et puis, il tire, la troupe vient et il tire.
Elle tire tout. Il y a eu aussi un autre fait. Pour la construction du chemin de fer, près de Bar-le-Duc, les ouvriers du chemin de fer protestent qu'ils ne sont pas assez payés et se mettent en grève. À l'époque, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la troupe.
Et ben voilà.
On envoie la troupe pour mettre au pas les grévistes.
Oui.
Et ceux-ci se répandent, se sauvent dans les vignes. À l'époque, la Lorraine était viticole. Ces gens, les grévistes se sauvent dans les vignes, sont poursuivis et traqués à coups de sabre par les hussards.
Il fallait du courage pour se rebeller à l'époque.
Ah bah oui.
Oui.
Attention, hein. Il faut vraiment être très courageux ou très acculé au désespoir, moi je dirais.
Oui, mais il faut dire, ils étaient acculés à des situations de misère qui te poussaient à ça. C'est-à-dire qu'il y a, c'était ça. Compare les trucs comme il se passe en Syrie en ce moment. Quoi. C'est-à-dire que les gens sont dans un tel dénuement. Qu'est-ce que tu veux faire? En face, c'est un pouvoir qui est fort. Et tu sais que face à toi, il y a la troupe. Et comment faire, quoi?
Enfin, le 19e siècle, c'est pourtant pas loin. En histoire, je veux dire, c'est rien du tout, quoi. Cette progression comme ça, de la laïcité, on va voir ça tout à l'heure, on va en parler, c'est quand même formidable.
Hein. Oui, oui.
Mais se remettre, c'est vrai, dans le 19e siècle, ça fait froid dans le dos. Hein.
Ah ben,
c'est sûr.
C'est eux, ça fait 4 générations.
4 générations, c'est rien.
C'est pas, ouais, ça...
Oui, puis alors, il y a eu quand même la guerre de 1870-71, qui a vraiment été... qui a marqué tout le 19e siècle. Hein. Ouais. Enfin, tout le 19e siècle, disons... presque à la moitié du 19e siècle.
On va en parler dans le détail après.
Monsieur Jean Castelli, on vous a fait choisir la programmation musicale. Très bon choix, puisque vous avez choisi les deux Jean Ferrat, interprétés par Jean Ferrat, Sacré Félicien, sur RCN.
Sachez qu'en mon pays, avec tous mes amis, le veille et le bamboche, il faut se lever tôt pour avoir le droit au titre de roi des cloches. Boire et jouer pour deux, aimer à qui mieux traiter Dieu de fantoche. En réfléchissant bien, je n'en voyais requin pour qui c'est dans la poche. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Tous les soirs au poker, paradis et enfer, mon cœur cesse de battre. Quand tremble ses casquettes, au regard qu'il me jette en abattant ses cartes. Si je sens aussitôt pousser sous mon chapeau des cornes qui se cachent, c'est qu'au jeu de poker, il dit qu'il vaut mieux faire le boucher que la vache. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Au tendre jeu d'aimer, sa force est de flairer l'anguille sous la roche. Peu lui chaud tout à fait que la belle et le nez en forme de galoche. Mais qu'un morceau de roi suivi d'un échalas, un petit pas s'approche. Il me dit aussitôt, pas mon pauvre Jeannot, la tienne est plutôt moche. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Quand on va braconner la truite et le gibier, je guette le gendarme. S'il est petit et gros, suant sous son chapeau, il me dit pas d'alarme. Te casse pas la tête, celui-là est si bête d'après ce qu'on raconte. Que même ses collègues qui ne sont pas des aigles ont pu s'en rendre compte. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien.
Si je fallait mettre...
Le sacré Félicien. Interprété par Jean Ferrat. Monsieur Jean Castelli, qui est l'invité de Charles Ancet aujourd'hui dans sa page d'histoire lorraine. Polémique lorraine, 5 ouvrages. Aujourd'hui, on s'arrête sur cet ouvrage-là. Et qui déjà, il peut passer des heures, il y a tellement de choses à dire sur ce 19e siècle.
Et puis voir
siècle.
Tous les progrès qui ont été faits dans l'évolution des mœurs. Alors là, par exemple, un fait divers... ce qui paraît aberrant, les instituteurs ne pouvaient pas habiter où ils souhaitaient. Alors, là, c'est dans l'Espérance, par arrêté de monsieur le préfet de la Meurthe, en date du 1er mars 1850, le sieur Godefroy, instituteur primaire de la commune d'Essel-et-Nancy, a été suspendu de ses fonctions avec privation de traitement pendant 1 mois. La question de savoir s'il n'aurait pas lieu de le changer de résidence a en outre été réservée. Voilà. C'est-à-dire que si tu n'habitais pas où on te disait, tu étais viré.
Oui, mais ils avaient une restriction. Non seulement ils devaient habiter où on leur disait d'habiter, mais par exemple, si c'était dans un village où il n'y avait pas la possibilité de se loger chez l'habitant, où il n'y avait pas de pension de famille, où il n'y avait pas d'hôtel, certains s'installaient dans les cabarets.
Oui, voilà. Alors ça faisait un scandale.
Alors là, c'était le scandale complet. Il n'avait pas le droit de loger dans un cabaret. Et il y a eu un arrêté ministériel qui a été pondu à cet effet-là. Et puis, il y avait aussi... le régent d'école était tenu d'apprendre, de faire l'instruction... L'instruction religieuse de ses élèves, en priorité. Hein.
Ah bon ?
En priorité. Ah oui. Mais pour l'éducation secondaire, pour l'enseignement secondaire, la commission qui était chargée d'agréer les postulants était systématiquement présidée par l'évêque. Mmh. Et une sœur d'une congrégation, même si elle n'avait qu'une instruction très limitée, du moment qu'elle avait une autorisation d'enseigner émanant de l'évêché,
voilà,
pouvait exercer le métier d'enseignant.
Ah oui, non, mais c'était important.
Notez, on peut pas. Bon, c'était l'époque qui voulait ça. Ça a donné quand même des résultats. Il y a quand même eu des gens qui ont été fortement éduqués et bien éduqués dans le système-là.
Mmh. Et pour faire bouger les lignes, ça a été dur. Hein.
Alors là, évidemment, une fois. Bien sûr. Puis alors, il faut dire aussi que les laïcs, ils sont un peu mal pris aussi. Ils ont bousculé tout d'un seul coup. Ils se sont attaqués en même temps à la religion et en même temps au capital.
Mais c'est souvent comme ça, souvent on est fait masse comme ça.
Il fallait beaucoup à faire.
Ah oui, il y avait beaucoup à faire, mais énormément, trop peut-être. Mais enfin bon, c'est une époque.
Oui, la ras-le-bol quoi.
Alors, toujours dans l'espérance, ça c'est gratiné. On nous écrit de Badonvillers. La petite ville, ordinairement si paisible, vient d'avoir aussi son émeute. Dès les premiers jours de la République, toute industrie ayant cessé, un grand nombre d'individus, puisque c'est l'espérance qui parle des républicains, complètement désœuvrés, occupaient leurs loisirs, allaient chercher des charges de bois dans la forêt. L'administration forestière s'y opposa et plus de 50 procès-verbaux furent dressés contre les délinquants. Il s'ensuivit une irritation sourde qui ne tarda pas à éclater. Un de ces hommes, ayant réclamé vainement à plusieurs reprises une hache qu'un garde lui avait enlevée en vain, il proféra des menaces pour se faire rendre son bien. De là, une colère fâcheuse. Bon, aujourd'hui, on dirait une bagarre. Vendredi dernier, au soir, trois gendarmes et un garde champêtre arrivèrent au domicile du réclamant pour s'emparer de sa personne, mais ils trouvèrent la maison gardée par 25 ou 30 femmes armées de gros bâtons et bien résolues à ne pas céder. Force fut pour éviter des malheurs de se retirer devant cette démonstration féminine. Ce n'est pas fini. La foule qui se grossit et dont l'exaspérance est au comble descend le faubourg et arrive au centre même de la ville. Là, un jeune homme est frappé violemment. Les gendarmes se présentent à nouveau. Ils sont maltraités. Des rixes s'engagent. La mêlée est générale. On pousse des cris affreux. Plus de 1500 personnes remplissent la place et les rues adjacentes. Ça fait penser à la chanson de Brassens.
Ah bah c'est Brassens, oui.
Non mais alors là, ça...
Tomber à coups de mamelle, les gendarmes.
Il faut toujours, quand on relate une époque, il faut dire ce qui s'est fait d'un côté et ce qui s'est fait de l'autre. Alors je dois ajouter quand même que la maréchaussée, les gendarmes, qui étaient toujours à cheval, hein. C'est d'ailleurs mentionné sur le procès verbal, c'est précisé qu'ils étaient à cheval, se montraient souvent généreux. C'est ainsi que, je ne sais pas si c'est dans ce livre-là ou dans celui que je suis en train de terminer, plusieurs fois, les gendarmes se sont cotisés, parce qu'à l'époque, la justice n'était pas du tout, humaine. Quelqu'un qui était poursuivi pour dette, même si c'était une famille, une femme qui était totalement démunie, elle était emprisonnée. Mmh. Et alors, quand j'ai relevé dans les journaux de l'époque, combien de fois les gendarmes qui étaient chargés de l'escorte de la délinquante se cotisaient pour payer sa...
du peuple aussi qui étaient...
Ah oui,
bien sûr.
Ils connaissaient la situation.
Par contre, il y a pire. Je peux vous citer un cas où deux voisins se chamaillent. Leurs propriétés sont contiguës. Dans l'une, il y a un puits. Et un prétend qu'il a le droit de puiser l'eau dans le puits. L'autre dit que c'est pas vrai. Ils vont au tribunal. Le tribunal condamne celui qui était propriétaire du terrain où se situait le puits à laisser son voisin venir chercher de l'eau. La femme du propriétaire du puits, de rage, et pour être sûre que son voisin ne prendra pas d'eau dans le puits, se jette dedans et meurt. Oui, oui.
C'était radical.
Ah, c'était...
C'est fou, ça.
Oui, oui.
C'est vrai qu'on a du mal à s'y remettre dans ce 19e siècle très violent. Quand même.
Oui,
enfin, c'est
oui,
un, mais c'était notre
pour
siècle
les gens de l'époque,
oui,
ça paraissait ça. Pas violent, c'était comme ça.
Quoi. Si on prenait l'histoire à l'envers, on paraît très très violent aussi pour ces gens-là.
À la suite des jugements, donc il y avait des exécutions publiques. Les exécutions publiques se faisaient dans toutes les villes ou qu'à Nancy ou,
ah ben non, c'était, en ce qui concerne la Lorraine, ça se passait toujours au chef-lieu.
Ah oui.
Alors Nancy, Épinal, Metz, Bar-le-Duc, etc. quoi.
Et avec un public nombreux, c'était...
Oh, un public... Le public venait à 3 heures du matin pour s'installer, pour être bien placé, pour assister à l'exécution.
Mais on exécutait sur Nancy, sur la place du marché ?
Non, ce qu'on appelait la place de grève, c'est-à-dire la place Dombasle.
Ah, c'est place Dombasle,
oui,
ah ouais.
Oui. Le monument de Dombasle n'existait pas à l'époque.
Et au début du 19e, c'était cour Léopold, enfin
l'équivalent du cours Léopold. Oui. La place Carnot, enfin.
Place Carnot,
la
place Carnot. Oui, oui.
Et on guillotinait à l'époque.
Pardon.
On guillotinait.
Ah bah depuis la Révolution, oui.
On guillotinait.
Sinon, on fusillait que les...
Oui, on fusillait que les militaires.
Ouais. Et les dernières exécutions, ça a eu lieu quand ? Dernière exécution publique, je pense.
C'est au XXe siècle, la dernière exécution. Moi, j'ai assisté, étant tout gosse, avec mon père. Mon père m'avait emmené c'était à Reims, m'avait emmené... J'avais quoi, 4 ans, peut-être. M'avait emmené voir une exécution.
Ah oui ?
Oui, oui.
Ouais,
enfin, je n'en dirai pas plus parce que vous savez, à l'âge-là.
Je crois qu'il y a un tableau de Friant qui représente une exécution publique à Nancy. Je crois.
Mais vous savez, il y a aussi autre chose, c'est que là, j'ai par exemple relevé. Les gens n'étaient. Pour vous situer, les gens. Tout du moins, l'atmosphère. L'atmosphère. Entre les Français. Un lecteur du Progrès, oui, c'est le Progrès, du 1er juin 1871, qui écrit au journal. « Monsieur le rédacteur, depuis quelque temps, des maladies dont je n'ai pas à rechercher l'origine et la mortalité qui en résultent ont pris à Nancy une proportion vraiment anormale. » Et comme conséquence, depuis 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, voire même plus tard, les glaces funèbres de toutes les paroisses de la ville et des faubourgs ne cessent de retentir péniblement à nos oreilles. Songez que nous avons eu jusqu'à 22 décès par jour. C'était au moment où il y avait une épidémie de typhoïde. Ne pensez-vous pas, monsieur le rédacteur, qu'en supprimant au moins pour le moment cette sonnerie monotone, on rendrait un véritable service non seulement aux personnalités sur le moral affaibli, desquelles elle peut produire une certaine influence. Alors j'avais d'ailleurs mis entre parenthèses qui croirait qu'on peut tuer à coup de cloche. mais encore aux familles attristées et en deuil, ainsi qu'à toute la population nancéenne déjà si péniblement affectée par la vue de nombreux convois mortuaires qui sillonnent les rues à chaque instant du jour. Ça note bien l'atmosphère. Les gens ne toléraient pas grand-chose, finalement.
Mais à propos de ça, j'ai relevé les histoires de sifflets. Il y en a pas mal. Alors, quand il y a eu le début du chemin de fer, les gens râlent parce qu'il y a des coups de sifflets partout. Et puis, alors, il y en a une qui m'a raconté, c'était les sifflets qui, en hiver, ça gelait les lèvres des...
Oui, alors,
Il fallait y penser.
C'est le tramway. On parlait déjà du tramway à l'époque. Oui.
Le tramway à crottin, on appelait ça.
Il y avait une grève des employés du tramway, enfin des Wattman, qu'on appelait ça. Alors, d'abord, les conducteurs de tramway doivent trouver bien dur la nécessité de tenir sur leurs lèvres les sifflets métalliques quand il y a 10 et 15 degrés en dessous de zéro.
C'est vrai.
Ils devaient siffler en permanence. De façon à ce que les piétons qui traversaient les rues n'importe où fassent attention.
Eh oui.
Alors là, il demande donc pourquoi ne remplacerait-on pas en hiver ce mode de signaux en garnissant de sonnettes les attelages du tramway. Cette précaution serait sans aucun doute appréciée par les conducteurs et surtout par les passants.
Bah écoutez, il faisait quand même attention aux gens, quand même. C'était, par contre, c'était intelligent.
Mais c'est vrai qu'au début du chemin de fer, la gare de Nancy, c'était intolérable parce que ça sifflait dans tous les coins. Alors, t'avais il devait y avoir plusieurs chefs qui avaient des sifflets et tu t'y retrouvais pas, quoi. Et aussi, ce qui est rigolo, c'est des plaintes parce que les passages à niveau, contrairement à ce qu'il y a maintenant, étaient toujours fermés. Et il fallait l'ouvrir quand t'arrivais. C'était le contraire. Il y a des tas de polémiques encore.
Oui, notamment rue de la Ravinelle. Là-bas.
Voilà, oui. Parce qu'il y a des industries, là.
Où il y a maintenant un tunnel qui passe sous la voie de chemin de fer. Mais à l'époque, le passage à niveau était inversé, si on peut dire. C'est-à-dire que les barrières bloquaient le passage des trains. Au lieu d'arrêter les piétons.
Bah oui.
Les piétons avaient priorité sur le train.
Mais des tas de détails aussi qui sont revenus, c'est quand on a fait la gare de Nancy, elle était dans les quartiers ouest. Mmh. Et toutes les industries étaient dans les quartiers est. Ce qui fait que les bestiaux arrivaient à la gare de Nancy, on les débarquait du train, il n'y avait encore pas la gare Saint-Georges, et il fallait que les troupeaux traverse Nancy pour aller aux abattoirs.
Oui,
c'était un cirque épouvantable. Alors imagine les coups de sifflet, les trous, les
vaches
qui traversent.
Et puis la gare de Nancy a été construite sur l'ancien cimetière Saint-Jean.
Ouais.
Alors là, ça a entraîné aussi des polémiques parce que avant, il a fallu déterrer les morts et les remettre quelque part. Alors en principe, on devait les remettre à Préville. Mais Les employés qui faisaient ça, ils creusaient, ils déterraient un mort, ou un cercueil, enfin n'importe quoi. C'était l'heure d'arriver, parce qu'ils faisaient quand même 12 heures par jour, hein, sinon 15. Hein. Alors, une fois arrivés au bout de la journée, ils s'arrêtaient tel quel. Et alors, il y avait des gens qui venaient récupérer les crânes, et qui les vendaient aux étudiants en médecine.
Ah ouais.
Oui, alors ça, pendant des années, ça a été une polémique.
Lire polémique Lorraine, édition de Mazero.
Alors attends, là j'en viens sur l'espérance, les problèmes de l'instruction dans les campagnes.
Devant le micro, monsieur, on sait s'il vous plaît.
Alors voilà, donc un article de l'Espérance, 1849. Pour se convaincre que l'instruction seule n'est pas nécessairement un élément de moralisation, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder comment, dans les diverses classes sociales, le savoir est trop souvent employé. Voilà un enfant qui vient de quitter l'école avec le mince et pourtant précieux bagage de connaissances qu'on y amasse habituellement. Il sait lire, écrire, calculer et possède en outre des notions assez complètes sur l'histoire, la géographie, le dessin linéaire, etc. C'est peu et c'est énorme. C'est peu en comparaison de ce qu'il reste à apprendre, c'est énorme parce que cet enfant peut maintenant suivre sa route et s'élever de jour en jour à une science plus complète. En deux mots, il a entre les mains un instrument d'une grande puissance, reste à savoir pour quel usage il va s'en servir, là est le point essentiel. S'il s'en sert pour faire, pour mal faire, où sera pour lui le bienfait de l'instruction ? S'il lit, par exemple, de mauvais livres, ou si, enivré de ses petits talents, il abandonne le foyer, l'atelier ou la charrue pour aller perdre dans les dissipations de la ville sa jeunesse, son temps et sa foi, à quoi lui aura servi d'en savoir un peu plus que les autres ? Vaut-il mieux rester ignorant que de mal user de son savoir ? Oui, cela vaudrait mieux, 100 fois mieux, si l'on était absolument réduit à choisir et s'il n'y avait pas de moyen de prendre un troisième parti. Ce troisième parti consiste à bien instruire et à bien employer l'instruction dans l'intérêt de son âme avant tout.
Oh mon Dieu, mais sûr, l'intérêt de son âme, je disais aussi.
Non, mais tu vois,
que les femmes ne pouvaient pas être instruites, alors pensez-nous.
Bah, c'était instruit, mais dans la religion.
Il fallait que ça serve à quelqu'un.
Voilà,
aïe, le 19e siècle. On fait une pause musicale, messieurs ? Vous avez également choisi ce morceau-là, monsieur Jean Castelli, puisqu'on parlait de combat, entre autres. On va parler des corons. Pierre Bachelet sur RCN, c'est la page d'histoire locale en compagnie de Charles Oncet et de M. Jean Castelli.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. des hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. C'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays. Grâce à eux je sais qui je suis. Oh, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Oh non, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. C'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond.
Monsieur Jean Castelli, cette chanson nous fait penser à l'ouvrier, au forçat carrément, les mineurs.
Exactement.
Hein, ça serait une autre page d'histoire à exploiter, n'est-ce pas, Charles?
Pour l'instant, on est dans le 19e siècle.
Oui, polémique
qui est
Lorraine.
Tellement si loin, enfin, pas si loin, mais qui nous paraît tellement différent et dur. Quoi. Et bon, allez, pour détendre l'atmosphère, aussi là, les petites escroqueries. Alors là, les faits divers, ces petites escroqueries. Alors, il y en a des pas mal, alors vraiment, il y en a qui n'hésitaient pas à mettre des cailloux dans le beurre.
Oui, bah oui, bah bien
pour
sûr,
faire
pour
du
faire
foie.
Le poids.
Voilà, c'est ça.
Mais alors, oui, donc on falsifiait pas la pesée, là, mais...
On mettait
mais
du
dedans,
petit
avait,
caillou,
bah, oui,
des
il y
petites pierres.
Il y a eu beaucoup d'affaires comme ça.
Oui, il y avait aussi l'individu qui se promenait dans les campagnes, qui attendait que le cultivateur soit parti dans ses champs, qui s'adressait à sa femme, et qu'il... qui lui promettait un rendement financier important. Alors, il procédait ainsi, il lui donnait un mouchoir ou un morceau de tissu qui pliait soigneusement devant elle. Il lui demandait de l'argent. Alors, bon, on va dire n'importe quelle somme, enfin, par exemple, 20 francs. Il lui demandait 20 francs. Il lui remettait le linge ou le mouchoir plié en lui conseillant de le mettre au fond de son armoire et de ne pas regarder dans le mouchoir avant au moins une semaine. Et qu'à ce moment-là, elle aurait la surprise de trouver une fortune. Alors, ça se faisait comme ça. Bon, évidemment, on ne revoyait jamais le personnage.
Bien sûr.
Et dans le mouchoir ou dans le tissu, il n'y avait rien.
Bah, tiens. Oh, bah oui. C'est non, pas mal, tiens, ça va donner des idées à beaucoup de gens, sans voir comment c'est l'idée.
Il y en a une
tiens.
Autre qui vient de sortir, je ne sais plus c'était à quel sujet. Enfin, bon.
Oui, il y a le choix. Hein.
Ah oui, non, il y avait aussi les histoires avec les animaux. Aussi. C'était, alors les loups, ça, c'était encore un grand problème au 19e siècle.
Ah, mais alors il y avait encore des loups.
Ah, bah, les loups, oui.
Les loups,
oui,
on parle en ce moment des loups actuellement, mais au 19e siècle, en Lorraine, il y avait des
Absolument.
Loups, beaucoup de loups. Et... Apparemment, enfin d'après les comptes rendus des journaux, ils étaient...
Il y avait des battues
qui ne servaient pas à grand-chose, d'ailleurs.
Oui, parce que les loups, ils ont l'air d'être plus malins que les renards.
Les loups étaient plus malins que...
Que l'être humain
aussi. Sauf encore, les loups respectaient le clergé. Vous avez dû lire dans le bouquin qu'un brave curé qui emmenait... des documents à un autre curé dans une paroisse assez éloignée de la sienne par un soir d'hiver où la neige tombait. Il donne les documents au curé chez qui il allait. Il sort pour rentrer chez lui. Et à ce moment-là, 6 loups se manifestent. 3 qui se mettent devant lui, 3 qui se mettent derrière lui.
Ouais.
Et
il l'accompagne.
Oh. Non, mais il peut avoir raconté ça. Hein.
C'est des galéjades.
C'était dans le journal de l'Espérance.
J'étais dans le journal de l'Espérance.
Oui, c'est ça. Oui.
Et ils l'ont accompagné jusque chez lui, sans lui faire aucun mal. Par contre, c'est plus en avant dans le siècle. Là. Ça se passe en 1884, je crois.
C'est toujours une histoire de loups.
Toujours une histoire de loups, mais vous savez, les loups.
Ah, ça a été difficile, c'était
les loups, on les a subis jusqu'à 1920, quelque chose comme ça, en Lorraine.
Ils étaient aux abords des villages, hein, quand il faisait faim, ces loups.
Tiens, en attendant, je te racontais une autre arnaque. Il y avait des arnaques pour vendre de la Mirabelle, de la goutte.
Oh bah,
alors, il y avait un tour de passe-passe.
Ouais,
alors,
ouais.
Ils allaient dans les bistrots, ils faisaient goûter la Mirabelle.
Ouais.
Et ils avaient fait un système, c'était des femmes qui vendaient ça. Il y avait des bidons d'eau en dessous de leurs jupons qui permettaient de renvoyer de la flotte. Enfin, tu vois, il y a tout un système de robinets comme ça.
Oui, ils faisaient des petites arnaques.
Une poche
comme un genre de gourde, si vous voulez, de gourde... souple en vessie de porc.
Oui, c'est ça.
Que la femme coinçait entre son jupon et son corps, avec un tuyau qui émergeait à la ceinture. Et elle rentrait dans les bistrots, se faisait servir un alcool. L'hôtelier posait la bouteille, c'était comme ça que ça se passait.
Oui, d'ailleurs, ça se passe encore comme ça.
Posait la bouteille de Mirabelle. Sur le comptoir, et la femme s'en emparait et remplissait sa gourde de Mirabelle. Et il y en avait une autre qui s'arrangeait pour pouvoir aller remettre de l'eau à la place.
Tu vois, l'intérêt des grandes jupes. Tu vois,
c'était l'intérêt des jupons. Et là, je suis en train de chercher. Là,
cette histoire de loup.
Mon histoire de loup, là.
Alors, bon... On va retrouver, en attendant, il y a un personnage dont on va parler, c'est quand même l'arrivée de Napoléon. On change d'époque.
Oui.
C'est-à-dire que il y a la monarchie de Juillet qui s'effondre.
Oui.
Et Napoléon qui... c'est pas Napoléon à l'époque, là. C'est le...
Non, c'est le prince-président.
Le prince-président. Et il est venu deux fois à Nancy. C'est-à-dire mais au début, les gens n'ont pas vraiment intérêt...
C'est-à-dire qu'il avait entrepris... il avait le droit... Il ne pouvait pas se représenter à la fin de son mandat.
Voilà, oui.
Hein. Et comme il avait l'intention de rester longtemps, il avait donc entrepris une tournée dans les grandes villes, dans les provinces françaises, pour se faire montrer, pour se faire admettre par les populations, et pouvoir, par un plébiscite, être autorisé à continuer son activité de président de la République. Alors il est arrivé à Nancy. Et à Nancy, il a été très mal reçu.
C'est-à-dire qu'il y avait, mal reçu, non, mais il y avait des groupes de républicains qui avaient bien réparti partout des gens pour crier « Vive la République » quand ils passaient.
Oui, alors, puis même, il y a même eu un qui, au bal, il y en a un garde républicain qui l'a interpellé en lui disant « Rappelle-toi, tu es président par le peuple ». On surveillera, ou enfin quelque chose de genre,
mais... menacé. Et alors, voilà.
Oui, et alors il a quand même été élu président de la République.
D'accord, ben bon.
Mais Napoléon III, c'est un monsieur qui devrait être réhabilité. Je m'excuse, mais je vais peut-être à l'encontre de beaucoup d'opinions, mais Napoléon III était un type intelligent, et un type social en plus. Il avait d'ailleurs écrit un bouquin sur la fin du paupérisme. Avant de revenir en France, quand il était exilé. Et il n'a eu de cesse de soulager le peuple. Malheureusement, il était entouré de gens qui étaient capitalistes au dernier degré et qui n'entendaient pas que le peuple s'émancipe.
Ok, donc ils l'ont étouffé.
L'impératrice en fait. Était une femme acariâtre. Bon, elle avait été trompée, elle était trompée en permanence. C'était peut-être à cause de ça. Hein.
C'est fort possible.
Mais enfin, elle était acariâtre. Oui. Et le gros tort qu'elle a eu, c'est de l'obliger. C'est pratiquement elle qui l'a fait déclarer
la
déclaration de guerre de 1870, oui, alors que lui, il savait qu'il ne pouvait pas s'opposer à la force.
Elle disait, c'est ma guerre.
C'est ma guerre. Oui.
Qui a dit que la femme était l'avenir de l'homme?
Oui, ben c'est ça, oui.
Entre autres. Hein.
Non, puis alors, il faut dire
aussi. C'est vrai que sur les ministres qu'il avait, bon, on se rappelle de celui qui disait enrichissez-vous.
Oui, mais attention, alors là aussi, enrichissez-vous. C'est Guizot qui a dit ça.
Oui.
C'était pas Napoléon III, c'était.
Oui, c'est ça, c'est ministre. Hein.
On a tronqué la phrase de Guizot. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir un certain niveau de richesse pour pouvoir voter, le sens. Alors, beaucoup se plaignaient de ne pas pouvoir voter parce qu'ils n'avaient pas le capital suffisant. Et Guizot a dit, mais enrichissez-vous en travaillant et vous pourrez voter. En substance, hein, c'est pas exactement...
Oui, d'accord.
Donc il n'y avait rien. Mais l'opposition républicaine a tronqué la phrase et lui a reproché, évidemment, son « enrichissez-vous ».
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une époque qui est mal connue. Enfin, c'est vrai que je suis comme toi, moi j'ai lu Zola, donc je suis resté. L'analyse que je fais de Napoléon III, c'est au travers Zola. Là, c'est sûr.
Une autre analyse est intéressante quand même.
Non,
hein.
Mais Napoléon III, bien sûr, il a eu la mauvaise idée de se laisser influencer par son entourage et déclarer la guerre de 70, alors qu'il savait très bien que la France n'était pas capable, l'armée française n'était pas capable de supporter un tel conflit, d'autant que il pouvait aligner que 235 000 soldats, alors que l'Allemagne pouvait en aligner plus de 500 000.
Ah oui, ils ont été submergés, là, carrément.
Submergés. Alors, évidemment, on avait un fusil qui portait à 1800 mètres. Les Allemands avaient un fusil qui portait, je crois, à 700 mètres, quelque chose comme ça. Mais on n'avait pas d'artillerie. Et puis, pour vous illustrer la légèreté de l'époque, deux mois avant la déclaration de guerre, alors qu'on savait bien que ça allait se faire, le journal L'Impartial, journal pratiquement sérieux, publie un article où il pose la question de savoir s'il fallait, oui ou non, mettre des os dans le pot-au-feu.
Oui, ah bah j'ai lu cet article.
C'est ça.
Il lance une polémique le jour à deux mois de la déclaration de guerre.
C'est qu'on savait que la guerre couvait, mais
c'est pour détendre l'atmosphère ou quoi?
On comprend pas. Je pense qu'on était peut-être sûr de les battre, trop sûr de les battre, parce qu'il y avait les déclarations des généraux. Il manque pas un bouton de guêtre.
Il y avait Maréchal Leboeuf. Il manque pas un bouton de guêtre.
Voilà. Donc on était convaincus d'être les plus forts. Et la Prusse, qu'est-ce que c'était que la Prusse?
Oui.
Finalement, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont... On va souffler dessus et on va les balayer.
57.
Voilà. Et alors, bon, bah, donc, on perd la guerre. Alors, je vois qu'on est obligé de faire vite. Et
il faut faire
parler
vite.
De l'occupation des Allemands à Nancy. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant.
Oui, alors là...
Parce comment ça s'est passé?
Là, ça a été virulent parce que... entre la population et l'armée allemande, surtout prussienne. Enfin, quoique dans nos régions, c'était plus des Bavarois.
Oui, c'est des Bavarois.
Alors, ce qui d'ailleurs sidérait les Lorrains, parce qu'ils entretenaient, en temps de paix, avec les Bavarois, ils entretenaient d'excellentes relations. Et ils voient arriver des Bavarois sanguinaires. Sanguinaires, brutaux, voleurs, pilleurs. Ça a été la douche froide.
Et il y a eu donc les réquisitions. Les officiers allemands ont envoyé les soldats habiter chez l'habitant. Donc
Alors, un régiment arrivait à Nancy ou dans une autre ville. Il y avait devant un fourrier qui passait dans la rue et qui déterminait que là, bon, il regardait la maison, il déterminait, il disait « Ah ben là, on en mettra 5, là, on en mettra 8, là, on en mettra... » C'est fabuleux.
Ouais. Alors vous allez continuer à nous...
Votre
ouvrage arrête en 1870, mais voilà. Après, on pense qu'il y a encore eu des autres polémiques, donc vous allez ressortir d'autres ouvrages sur le...
1901.
Ah oui, d'accord.
Oui, oui.
Ah, bon, on attend ça avec impatience.
J'espère pouvoir l'éditer, le faire éditer.
Moi, je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes quand même. Là, on vient de découvrir petite page par petite page, parce que c'est quand même croustillant. Il faut lire cet ouvrage de Jean Castelli, invité de cette page d'histoire. Polémique Lorraine, 1840-1870. Grande et petite histoire du 19e siècle à travers la presse lorraine et d'opinion, édition de Maziro. On n'a pas une autre histoire de loup, mais justement, lisez cet ouvrage et vous aurez l'histoire des loups et bien d'autres histoires. Alors, beaucoup d'ouvrages, 5 ouvrages, le sixième est terminé. Hein, oui. Monsieur Castelli, donc précipitez-vous, parce que moi je vais me précipiter, c'est sûr, parce que je vais avoir l'histoire de loup et puis bien d'autres histoires encore. Ça donne envie de vous dévorer, c'est qu'à le dire. Merci Monsieur Castelli. Merci Charles, au mois prochain.
Au mois prochain.
Merci à Mathieu Grandpère pour la technique et merci à vous de nous écouter. Bonne soirée. Merci.